La conférence d'aujourd'hui a le titre « Une économie de luxe ». Le 11 août 1712, Liu Hua était chez lui dans sa résidence de Jiaxing, dans le delta du Yangtze, quand un marchand d'antiquités venant de la ville de Wuxi amarra sa barque devant sa porte. Li descendit d'un pas nonchalant pour voir ce que le marchand, dont le nom était Sun, avait à lui offrir. Sun était ravi de voir un tel gentilhomme venir visiter son magasin flottant et il sortit tous les articles de valeur qu'il avait, dans l'espoir d'arriver à lui vendre quelque chose. Il commença en montrant à Li 24 objets décoratifs en bronze qui, selon lui, provenaient de la cour impériale. Parmi ces objets, il y avait deux encensoirs rectangulaires fabriqués par un certain artisan Jiang, ainsi qu'un tripode fondu pendant la période Xuan De, dans les années 1430. Et ici, je vous donne un tel tripode. Xuan De était le règne le plus connu des Ming pour la qualité des produits fabriqués dans les manufactures impériale, pas seulement les bronzes, mais aussi les porcelaines. Marchand Sun montra aussi à Liu Hua un bronze de Xuan De, une coupe antique façonnée en corne de rhinocéros. Oui. Une assiette en porcelaine servant de lampe à huile, fabriquée dans un des fours impériaux pendant la période Shen Hua. Et une aiguillère noire en lac en forme de tambour dont un côté était orné de roseaux peints, tandis que l'autre portait un court texte. Li ne fut pas impressionné par l'aiguillère. Et je cite, « Elle n'avait rien de noble ni d'élégant. La calligraphie était pointue et trop mince. À tous les coups, le travail de quelques ivrognes sans bon vendeur. » Fin de citation. Le marchand Sun exhiba aussi deux chaises de style mongol de bonne qualité avec des dossiers incrustés de pierres de Dali, fort coûteuses. Il prendait qu'elles provenaient d'un monastère bouddhique, ce qui était supposé leur conférer une patine prestigieuse. J'ai parlé la semaine dernière au prix des articles d'usage quotidien. Ces prix étaient cités en argent dans les comptabilités officielles, mais il est probable que dans la plupart des cas, on payait en pièces de cuivre. C'était le genre d'objet que la plupart des gens pouvaient s'offrir, des pinceaux ou du tofu, par exemple. Aujourd'hui, nous allons explorer l'autre extrémité du marché, les régions supérieures de l'économie de l'argent, où l'on pouvait croiser des marchands comme Sun, vendant des bronzes de l'ère Xuan De ou de la porcelaine de l'ère Chang Hua, et des membres d'élite comme Liu Hua pour les acheter, souvent en payant de très grosses sommes d'argent et toujours en argent. Quels que soient les prix demandés par marchand Sun pour ces objets d'art, Li ne les note pas dans son journal, sauf qu'un prix, ça, du seul objet ayant retenu son attention au milieu de bric-à-brac très banal. Coupe en porcelaine en forme de fleur de magnolia, elle aussi produite dans les fours impériaux pendant l'ère Xuan De. Une coupe, comme l'écrivait Li dans son journal, qui, et je cite, « était merveilleusement archaïque et naturelle, l'intérieur était d'un blanc brillant, l'extérieur était revêtu d'un vernis violet pâle, en dessous duquel on distinguait des fleurs entrelacées. » Fin de citation. Li était sous le charme, en tout cas jusqu'à ce que Sun lui dise le prix, 40 taels d'argent, plus d'un kilo d'argent. Li en était outragé et il soupira. Et c'est ainsi quand on est arrivé au point où ce qu'on produit avec un four à tuiles coûte plus cher que de l'or ou du jade. Cette façon qu'Ali de se plaindre de ce qu'on produit sorti d'un four à tuiles coûte plus que de l'or ou du jade est une banalité à la fin des Ming. Autrement dit, à une époque où la commercialisation semble jeter la plus grande convulsion dans les valeurs. La haute culture avait été à une époque un domaine réservé où des objets exceptionnels rencontrent les désirs de la petite minorité suffisamment qualifiée pour les apprécier et comprendre pourquoi ils étaient exceptionnels. Maintenant, qu'il y avait une telle quantité de gens en compétition pour acquérir les meilleurs produits, le monde culturel en était complètement changé. Et cela s'illustrait, on ne peut mieux par les prix désormais exigés pour les objets qui suscitaient votre désir. 40 taels pour un bol en porcelaine, par exemple. La consommation des objets de valeur par les riches mettait en péril l'idée même de valeur. Et en outre, elle jetait le doute concernant qui exactement était en droit d'exercer un monopole sur l'interprétation de sa valeur. Lorsqu'elle se tourna vers le passé à la fin des Ming, comme le faisait Li Ruhua, l'ancienne élite culturelle était consternée à l'idée de ce qu'elle pensait avoir perdu. Au débat des Ming, la cour exerçait un quasi-monopole sur les articles culturels de haute valeur et elle protégeait les privilèges impériaux en matière de consommation et de visibilité en imposant des paramètres fixés dans les lois somptuaires et des mécanismes d'autorisation. Au début de la dynastie, furent édictées des règles précisant qui avait le droit de posséder quels articles de luxe. Les coupes de vin et les aiguilles, par exemple. Suivant des anciennes règles somptuaires, les fonctionnaires de premier ou de deuxième rang avaient le droit d'avoir des coupes en or et des aiguilles en or. Pour ceux de troisième rang jusqu'au cinquième rang, les coupes pouvaient être en or, mais les aiguilles devaient être en argent. Du sixième au neuvième rang, il fallait se contenter d'argent dans les deux cas, et ceux qui n'avaient pas d'argent devaient se contenter de coupes et d'aiguilles en porcelaine. Mais déjà au milieu du 15e siècle, on ne tenait plus compte de ces limites. Et au XVIe siècle, les règles somptuaires étaient devenues lettres mortes. Du coup, les connaisseurs n'appartenant pas à la cour étaient libres de décréter d'autres normes de goût et de contrôler la circulation des articles les plus appréciés, voire d'en fixer le prix, sans se référer à la culture matérielle de la cour. J'ai trouvé mention de 74 articles culturels ou objets d'art pour lesquels un prix est donné dans les sources Ming. Et je commence avec les plus bons marchés. La majorité de ces mentions proviennent de centres culturels et économiques du delta du Yangtze. Et les prix s'échelonnent entre 1 et 2 000 taels. Autrement dit, on trouvait les articles de luxe d'un bout à l'autre de l'échelle des prix dans l'économie de l'argent. Prenons par exemple les articles coûtant jusqu'à 10 taels, il s'agit toujours d'objets datant des Ming. Si c'est une œuvre attribuée à un artiste, des Song ou des Yuan, c'est une attribution bien douteuse. Quelque sorte la zone du luxe à prix réduit, une zone intéressante à observer du point de vue de l'histoire culturelle. J'y reviendrai d'ailleurs à la fin de cet exposé. Prenons maintenant Alors, par exemple, les quatre inscriptions de Zhao Mengfu, c'est de la dynastie de Yuan, à 16 terres, c'est complètement impossible. Ce sont les faux, bien sûr. Alors, maintenant, on commence avec 20 terres comme prix de référence. Là, on peut trouver des peintures et des calligraphies d'artistes, des Tang, des Song et des Yuan. Ces prix que j'ai trouvés semblent bas, mais ils sont tous antérieurs à l'année 1600. Et comme nous le verrons, la demande toujours plus forte pour ces œuvres n'a cessé de pousser les prix vers le haut jusqu'à la fin des Ming. Pour mieux caractériser ce taux de 20 taels, il faudra peut-être se reporter une anecdote racontant l'histoire d'un personnage qui avait payé 20 taels pour une peinture de Dong Qichang, alors que Dong était encore en vie. Et voilà une peinture de Dong Qichang. Il est à la fin des Ming, il était considéré comme le plus bon peinture de son ère. L'homme qui a acheté un Dong Qichang pour 20 taels se rendit compte plus tard qu'il avait acheté un faux. Quand Dong a appris la chose, il vendit au même personnage une peinture authentique de lui et pour le même prix, qui était extrêmement bon marché. En admettant que l'estimation que je vous ai proposée la semaine dernière soit correcte, une famille de cinq avait besoin d'environ 19 taels pour vivre pendant un an. Ça veut dire 20 taels était beaucoup d'argent, même s'il en aurait fallu un peu plus pour faire atteindre le prix de l'art contemporain. Les prix vraiment élevés étaient réservés à d'autres biens de luxe. Par exemple, on trouve des porcelaines Ming de Shande, par exemple, vendues entre 30 et 40 taels. À 50 taels, oh, excusez-moi, c'est... Ah oui. Enfin, je n'ai pas beaucoup de prix dans ce rang. À 50 taels, on a l'impression d'atteindre un nouveau palier. Là, on rencontre des œuvres de grands maîtres des Yuan, comme Huang Gongwang ou Zhao Mengfu. Et puis ensuite, les prix montent progressivement jusqu'à 100 taels pour des peintures et des calligraphies de haute qualité, et jusqu'à 200 taels pour des bronzes anciens à l'époque des Zhou. Et tout en haut de l'échelle, on a les plus grands chefs-d'œuvre. Oui, vers 2000 taels. Oui. Comme dans le cas des objets quotidiens, la circulation des articles de luxe empruntait des chemins tout à fait prévisibles, dans le cadre d'un marché, lui aussi, tout à fait régulier. Afin de voir comment ce marché fonctionnait, j'aimerais revenir à Li Ruhua, l'acheteur d'objets d'art avec qui j'ai commencé mon exposé. Li était originaire de la région prospère du delta du Yangtze. Sa vie s'était déroulée de façon tout à fait banale pour un membre de la gentrie urbaine en train de s'élever dans la société Fan Ming. Il ne venait pas d'une famille de la haute élite. Son père était devenu orphelin dès son jeune âge et avait dû se battre pour s'imposer dans le monde. Mais il y était arrivé grâce à des biens immobiliers qu'il avait achetés et en accumulant une fortune suffisante pour payer l'éducation de son fils et faire en sorte que celle-ci puisse se représenter aux examens et devenir fonctionnaire. Li Ruhua s'avéra un bon investissement. Il passa l'examen provincial en 1591 et l'examen du doctorat l'année suivante. Après quoi, il reçut le poste important de juge préfectoral dès sa première nomination. Sa carrière fut interrompue put au bout de 12 ans à cause de la mort de sa mère en 1604. Il rentra chez lui et observa la deuil pendant la période requise de 27 mois. Mais à la fin de son deuil, il décida de ne pas poursuivre dans la carrière bureaucratique qu'il a commencée. Il invoqua le grand âge de son père pour rester à la carte de l'administration pendant les 10 dernières années. Extrêmement agité du règne de Wanli et ensuite pendant la désastreuse décennie 1620. Plutôt que d'avoir à subir les avenues réservées pendant toute cette période aux fonctionnaires vertueux par le factionnalisme qui dominait la fonction publique et par la puissance des eunuques, il préféra rester chez lui et jouir des loisirs et des activités culturelles typiques de son milieu. Autrement dit, écrire, peindre, composer des poèmes, voyager et faire la fête avec des amis de même sensibilité et participer à l'occasion de la vie politique locale. Et voici un de ses peintres. Et il amassa aussi une collection impressionnante d'objets d'art et d'antiquités, ce qui explique pourquoi il nous sert de guide aujourd'hui. Li n'aurait présenté qu'un intérêt limité pour les historiens si 8 années de son journal, intitulé « Journal du studio du goûteur de l'eau », n'avaient été préservées. Ce journal n'était pas pour Li un lieu où s'interroger sur lui-même. C'était de simples notes qu'il prenait sur des faits de la vie quotidienne, assez banales que le temps qu'il fait. Mais si le journal de Li Ruhua a retenu l'attention des spécialistes des Ming, c'est parce qu'il y consignait, ses acquisitions en tant que collectionneur. En fait, que je m'intéresse moins aux objets d'art qu'il collectionnait qu'aux transactions qui lui permettait de les acquérir. Et c'est son choufa. Li Ruhua mentionne rarement dans son journal les prix qu'il payait. Et on peut supposer qu'il les consignait séparément dans un livre de compte lui permettant de tenir à jour sa collection d'objets d'art et d'antiquités qui était aussi vaste que changeante. Et pourtant, le journal a une certaine valeur pour l'historien des prix dans la mesure où il révèle la façon dont les acheteurs, aussi bien que les vendeurs, participaient à ce secteur très particulier de l'économie de l'argent. Li est donc notre acheteur. Notre vendeur aujourd'hui, c'est son fournisseur le plus régulier, un marchand local d'antiquités que Li appelle simplement Xia Gu, marchand Xia. Il est clair qu'ils se connaissaient déjà depuis longtemps lorsque Xia est mentionné pour la première fois dans le journal, le 26 mai 1609. Entre cette date et le 20 avril 1616, Xia est venu rendre visite à Li Ruhua 4 ou 5 fois pour lui vendre des objets. Bien que Li n'en donne jamais de véritable description, grâce à ses notes sur leur rencontre, le marchand Xia est le marchand d'art le mieux connu dans toute l'histoire de la Chine. Les objets d'art apportés par Xia à l'occasion de ses premières visites, une demi-douzaine entre mai et décembre 1609, nous donnent une idée du marché sur lequel opéraient Xia et Li, l'un comme vendeur et l'autre comme acheteur. Dans le haut de la liste, on trouve des artistes de l'époque Yuan, à savoir Wu Zhen, Zhao Mengfu, Kui Kui et Ni Zan. La seule grand maître Yuan à ne pas figurer dans le catalogue de Xia à un moment ou un autre est Wang Meng, bien que ce ne soit pas faute de sa part d'avoir essayé de s'en procurer. Et on trouve dans le journal de Li Ruhua description d'une occasion quand il était dans les rues de Jiaxing et marchand Xia he came running out into the street and showed him a Wang Meng that he had finally found. Naturellement, c'était un faux. Il persévère. Parmi les peintres et les calligraphes des Ming, les artistes favoris sont Shen Zhou, Zhu Yunming, Zhou Chen, Tang Ying, Wen Zhengming, Wen Boren et Dong Qichang, les plus fameux peintres de la dynastie. Au fil du temps, le marchand Xia réussira à apporter à lui des œuvres de tous ses maîtres. Xia ne propose jamais de prix. Ou, pour être plus exact, Li ne le note jamais. Quand d'aventure il en note un, c'est le plus souvent parce que c'est un prix qu'il trouve outrageux et il ne s'agit jamais d'un prix demandé par le marchand Xia. Un jour, quand Moine montre à Li un Huang Gong Wang, par exemple, et lui demande 50 taels, Li note ce chiffre parce que, écrit-il dans son journal, la couleur du papier était suspecte. Ce n'était pas le prix que le dérangeait dans ce cas, mais l'attribution. Personne n'a envie d'acheter un faux Huang Gong Wang pour le prix d'un vrai. Et cela nous amène au thème des dangers de l'évaluation, qui est au cœur du marché de l'art et qui va nous occuper pour l'essentiel pendant le reste de cette conférence. C'est le problème des objets dont le prix ne correspond pas à la valeur. En d'autres termes, dans le langage du marché de l'art, c'est le problème des faux. Ce dont discute à première vue le journal de Lirhua, c'est d'appréciation artistique. Mais sous la surface affleure d'une inquiétude constante selon l'authenticité des objets et le souci de rester vigilant. Un acheteur veut toujours être sûr que ce qu'on lui donne est bien ce pour quoi il a payé. Qu'il s'agisse d'un kilo de riz ou d'une calligraphie de Dong Qichang. Et c'est tellement pas important dans le cas d'une œuvre d'un grand peintre, en partie à cause des sommes en jeu, certes, mais aussi à cause du capital culturel qu'un objet d'art prestigieux incarne. Li Ruhua savait pertinemment que tous les objets d'art ne sont pas ce qu'ils prétendent être ou que le marchand prétend qu'ils sont. Et ça lui était particulièrement agréable d'arriver à prendre son marchand en défaut. Lorsque le 23 septembre 1514, Xia apporta à Li un rouleau pour qu'il l'authentifie en affirmant qu'il était de la main de Guoxi, maître fameuse du XIe siècle. Li ne fut pas convaincu. Il était très riche, écrit-il dans son journal, et je cite, avec des inscriptions de Lu Yanro, Fan Hui et Lu Zhifu, mais aucune ne suffisait pas pour garantir son authenticité. Ce n'était rien d'autre qu'une curiosité fabriquée récemment à Suzhou. Suzhou était le centre de la production d'art commercial à la fin des Ming. Ces artisans et ces ateliers étaient capables de tout fabriquer, aussi bien des copies à bon marché et sans aucune prétention de l'authenticité que des contrefaçons vendues très chères et que celles en œil exercé pouvaient distinguer d'une pièce authentique. Certains artisans de Suzhou étaient d'une habileté remarquable et pas seulement les peintres. Deux semaines avant la visite du marchand Sun, que j'ai évoqué au début, un autre marchand était venu voir Li pour lui offrir un seau authentique, en échange d'une de ses calligraphies ou d'une de ses peintures. Le marchand prétendait que le seau avait appartenu à un producteur de la dynastie des Tang. Et Li écrit dans son journal, « Quand j'ai examiné les caractères, je ne les ai pas trouvés particulièrement antiques ni élégants, même si la boucle au dos était d'un vert azuré. Li soupçonna une contrefaçon venant de Suzhou, et il dit « On ne compte pas les imitations que les marchands de Suzhou ont concoctées récemment, dont je ne pouvais pas lui faire confiance. » Les artisans de Suzhou faisaient ce que font tous les fabricants travaillant pour le marché. Ils adaptaient leurs produits aux demandes de celles-ci. Si les peintures anciennes des Tang et des Song atteignaient des prix astronomiques, eh bien, ils procuraient des peintures Tang, eh bien, ils produiraient des peintures Tang et Song. Si les Zhao Mengfu se vendaient mieux que les Wuzhen, qu'à cela ne tienne, ils peindraient les Zhao Mengfu et pas les Wuzhen. Et si les Wenzhengming se vendaient pour un meilleur prix que les Tang Yin, pourquoi fabriquer des Tang Yin quand on pouvait aussi bien faire des Wenzhengming? Les faussaires ne faisaient rien d'autre lorsqu'ils choisissaient les artistes qu'ils allaient copier que de se conformer à l'échelle des valeurs prévalant parmi les connaisseurs. Et voilà en Wenzhengming. Dans un tel marché, les noms des artistes ont été vendus à jouer le même rôle que les marques de fabrique qui dominaient depuis le 16e siècle le marché des articles de qualité manufacturée. Quand le marchand Sun montra à Li les deux encensoirs rectangulaires qu'il avait dans sa barque, il tint absolument à préciser qu'ils avaient été fabriqués par un artisan du nom de Jiang, dont on peut supposer qu'il était considéré comme le meilleur fabricant d'encensoirs en bronze à ce moment. On a raison de penser qu'un métallurgiste, pourtant ce nom, avait fabriqué des encensoirs à un moment quelconque dans le passé, d'où l'association positive entre son nom et ce produit. De même que les consommateurs apprenaient le nom des marques de fabrique, de la même façon, les vendeurs apprenaient à associer avec certains noms des produits par ailleurs anonymes et à en fixer le prix en conséquence. C'est ici la question de compétition commerciale, et pas seulement par les producteurs et les commerciaux, mais aussi entre les acheteurs. Et c'est cette compétition parmi les acheteurs qui pouvait très bien submerger le marché. Quand le marchand Xia se présenta chez Li Ruihua le 8 janvier 1613, il n'avait rien d'autre à montrer que des antiquités et des bibelots, pas une seule peinture, pas une seule calligraphie. Son stock fort modeste incluait une coupe en corne de rhinocéros translucide, une boucle de ceinture en ambre et un anneau de pouce en vieux jade. Xia savait très bien qu'il n'y avait rien là d'intéressant pour un collectionneur d'art sérieux, et il expliqua à Li le pourquoi de cette situation. Voici comment Li rapporte les propos du marchand Xia dans son journal, et je cite. Il vient d'arriver de Nanjing, et il dit que ces derniers temps, le marché de la calligraphie et de la peinture s'est effondré. Les vendeurs ne veulent pas vendre et les acheteurs ne veulent pas acheter. Tout cela, c'est parce qu'il y a tellement de faux et que le nombre de ceux qui se sont fait avoir n'est pas petit. Chacun veut éviter se brûler les doigts et dans une telle situation, personne ne veut se mouiller. Fin de citation. Cette situation, on pourrait l'appeler la loi de Gresham transposée aux produits de luxe. Les objets surévalués par le marché, c'est-à-dire les contrefaçons non identifiées, ont fait retirer de la circulation les produits sous-évalués, c'est-à-dire les pièces authentiques, en prétendant à se substituer à eux. Li ne rend pas responsable. Li ne rend pas responsable les fabricants, ni même les marchands, de la saturation du marché par les faux. C'est les acheteurs qu'il accuse de ne pas être capable d'exercer le jugement nécessaire pour écarter les contrefaçons du marché. Deux mois plus tard, lorsque Xia, toujours optimiste, revient avec une pièce de jade dont il prétend que c'est un repose-poignet ancien pour calligraphe, le commentaire de lui, c'est que, et je cite, « Depuis que les gens distingués ont commencé de collectionner des antiquités pour satisfaire leur désir d'acquérir des objets qui leur plaisent, il y a eu des jeunes dandys pour marcher sur leurs traces sans regarder à la dépense et pour en acheter eux aussi. » Li se plaint que, et je cite, « Du coup, les marchands malins et les arnaqueurs qui opèrent sur le marché sont prêts à tout pour vendre quelque chose, ils proféreront des absurdités pour vanter leurs produits jusqu'à dire absolument n'importe quoi. Mais les vrais coupables, ce sont les acheteurs incompétents qui se sont imposés sur le marché sans meilleure justification que leur richesse. Ce jugement s'appuie sur l'histoire de la consommation de luxe sous les Ming. Pendant les premières années de la dynastie, les règlements somptueux garantissaient qu'il ne suffisait pas d'être riche pour avoir accès aux objets établissant le statut de membre d'élite. Acheter une coupe de vin en or, pour reprendre l'exemple déjà cité, était légalement réservé au niveau supérieur de l'élite d'État. Les personnes non autorisées qui s'en procuraient risquaient d'être sévèrement poursuivies. Mais depuis, cette barrière s'était effondrée largement sous le poids de l'accroissement de la richesse dans les milieux non autorisés. Les distinctions sociales pouvaient à présent être redéfinies sur la base du pouvoir d'achat. Dès lors, ce dernier devait se mettre en quête d'autres moyens de représentation. Et c'était ainsi que la notion d'élégance avait remplacé celle de privilège conférée par la dynastie, l'ancienne élite redessinant la frontière qui la séparait de ceux qui se trouvaient en dessous d'elle et ces derniers cherchant à maîtriser les qualifications nécessaires pour accéder au statut d'élite. Alors que la mode remplaça les privilèges octroyés, la dépense en éducation et en argent nécessaire pour franchir le seuil entre vulgarité et élégance ne cessa d'augmenter. L'élite fixait les termes de la compétition, mais elle ne pouvait espérer gagner à tous les coups, car la société dans laquelle on vivait était une société où n'importe quel individu pouvait accumuler de la richesse, quel que soit son statut social, et s'en servir pour accroître son statut. Quand les gens vulgaires, dans tout ce qu'ils choisissent pour leurs vêtements, leurs charrois et leur nourriture, auraient honte de ne pas plus consommer qu'une principicule, ainsi que le déplorait un habitué de la culture à Nanjing, quand il en allait ainsi, la capacité des gentilshommes élégants à vivre dignement était menacée. Tout ce que les vrais connaisseurs pouvaient espérer, c'était d'adopter une attitude condescendante face à cette ostentation vulgaire et de se maintenir en avant du jeu en ne cessant d'en redéfinir eux-mêmes les règles. Une façon d'y arriver consistait à conserver parmi eux les articles les plus prestigieux et de camoufler les échanges au sein de leur milieu en parlant de « dette élégante », pour reprendre le terme inventé par Craig Lunas, pour décrire cette sphère très fermée de circulation des biens. Cela n'allait pas sans causer quelques frustrations chez ceux qui se trouvaient en dehors de ce cercle exclusif. Un jeune voisin de Li, Shen Defu, se plaignait de ce que les collectionneurs les plus cotés de son époque, comme par exemple Dong Qichang, achetaient, et je cite, achetaient dans leur milieu et faisaient le compte entre eux. Fin de citation. Il ne s'agissait aucunement de sa part d'une revendication démocratique. Ce qui le préoccupait, c'était la barrière d'exclusivité de plus en plus irréfranchissable créée par les prix les plus élevés. Ce cercle fermé, se plaignait Chenefeux, poussait aussi les prix vers le haut. En écartant les autres des enchères, ces gens faisaient en sorte qu'il n'y avait plus de concurrence entre acheteurs pour faire baisser les prix et que ces derniers étaient maintenus artificiellement élevés. Chen écrivait à une époque où la participation au marché du luxe s'était déjà élargie au-delà de la petite élite culturelle qui contrôlait autrefois la disposition de ce genre de biens. Les familles de l'élite pouvaient bien s'entendre pour empêcher leur possession d'être mise sur le marché, mais dans la réalité, c'est exactement ce qui se passait. Les Yuhua activaient ses réseaux personnels parmi l'élite du Delta, mais ces réseaux étaient insuffisants. Ils étaient obligés d'aller sur le marché pour se procurer les objets de valeur chers à son cœur. Xia Zhaozhe, l'exact contemporain de Li Yuhua, qui était originaire de Fujian, se disait choqué par les collectionneurs de rang inférieur qui jouaient des coudes pour pénétrer sur le marché. Sur 10 collectionneurs, ragia-t-il, il y en a 9 qui se sont du genre à se promener dans leurs pantalons de soie fine, de nouveaux riches, incapables même de devenir des dilettantes et encore moins des gentilshommes de goût. Ils empilent l'or et l'argent et ne savent plus où le mettre. Quand ils entendent dire qu'une pièce importante de calligraphie ou de peinture est disponible, ils achètent, sur le moindre discernement, le premier objet posé sur une étagère ou accroché à un mur. Fin de citation. Les faits, ce n'était pas seulement un brouillage des statuts sociaux, mais aussi la dilution du stock d'objets d'art disponibles sur le marché. Acheter n'importe quoi pour dépenser ses surplus de liquidité, c'était compromettre le cercle de ceux qui se considéraient comme des vrais connaisseurs. Blâmer de tels acheteurs de se baser sur le moyen financier plutôt que sur le discernement, ce n'était rien d'autre de la part de Xia Zhaozhe que faire retraite derrière d'anciennes barrières de classe qui, en fait, n'existaient plus. Les vieilles familles établies laissaient progressivement la place à des familles récemment enrichies, et ce processus, personne ne pouvait l'arrêter. Le mépris de Xia pour les collectionneurs vulgaires ne faisait que refléter sa crainte de ne plus être protégé par l'exclusivité sociale offerte dans le temps par la qualité de collectionneur. Il aimait peut-être à imaginer que les lettrés pouvaient vivre dans une zone libérée de l'économie de l'argent ou qu'un chef-d'œuvre éternel pouvait être un trésor dépourvu de prix, mais sous le régime de prix qui prévalait, il n'existait plus de telle zone. Quant à Li Yuhua, l'inquiétude qu'il éprouvait était au bout du compte d'une nature plus pratique. Il lui fallait protéger son investissement. Peu importe que les acheteurs non qualifiés fussent dépourvus de goût et de culture, c'était une question de péril financier. Les acheteurs non qualifiés étaient en train de pousser les prix jusqu'au point où lui, Li Yuhua, risquerait d'être exclu en tant qu'acheteur. En outre, ils étaient incapables d'identifier les faux. D'une part, il pourrait bien lui arriver un jour de ne plus pouvoir acheter ce que son statut social lui donnait le droit de posséder. Et d'autre part, il lui fallait naviguer dans un marché où les fabricants introduisaient des faux toujours plus habiles, peut-être impossibles à détecter, avec le risque que tout son capital y passe sans qu'il accumule pour autant le moindre objet de valeur. Li était un bon connaisseur des peintres de Wen Zhengming, et il eut le dernier mot lorsque, le 19 novembre 1614, le marchand Xia lui apporta une œuvre de Wen intitulée « La conservation des chrysanthèmes ». Et voilà le peintre. Voici comment Liu Hua en parle dans son journal, et je cite. Il parle de Xia. Il était très content de lui-même. Je gardai le silence pendant un long moment, puis tranquillement je sortis le Wen Zhengming authentique que je possédais pour qu'il y jette un coup d'œil. Sur ce, il prit la fuite sans plus de cérémonie. Quand j'ai placé la peinture authentique à côté de la sienne, il a paniqué, totalement risible. J'avais acquis ce rouleau de Wen Zhengming il y a environ 20 ans. Fin de citation. Liu Hua riait bien parce qu'il avait gagné une bataille dans cette guerre des valeurs économiques. Mais il riait aussi parce que les deux hommes s'étaient reconnus. Ils étaient dans des camps opposés, mais ils participaient au même jeu. Et c'est intéressant que ce peinture, la conservation des chrysanthèmes, est en fait un faux, mais c'est un faux de dynastie Ming. Le vrai peinture maintenant n'existe plus. Peut-être ça, c'est ça que Marchand Xia a donné à Liu Hua. Tant que la demande dépasse l'offre, on trouve toujours des acheteurs pour les faux et la demande stimule la production, avec pour conséquence qu'on finit par se trouver en situation de sous-production et que c'est la crise, comme ce fut le cas à l'hiver 1612. Comme ils sont produits entièrement pour le marché, les faux sont la forme la plus pure de marchandises de luxe. Les appeler des faux fait partie du camouflage pratiqué sur le marchand du luxe, ou le processus de production de masse sur lequel se fonde le marché se cache derrière des proclamations sur l'infériorité morale des contrefaçons. Et pourtant, les faux, les copies et les contrefaçons, c'est bien ce qu'acquièrent les collectionneurs d'art qui n'appartiennent pas aux sphères les plus élevées. Le marché ne peut pas survivre rien qu'avec des œuvres authentiques signées par les grands maîtres. Il y a tout simplement pas assez de grands maîtres. Si nombreuses soient les œuvres de Wen Zhengming passées dans le marché, une fois que la valeur commerciale attribuée à un certain type de peinture aura été fixée en fonction de ce canon, il n'y en aura jamais assez. Plus de demandes suscitent plus d'offres, et ce sont des produits de substitution qui viennent combler le vide. La semaine dernière, j'ai conclu ma conférence avec un coda en tenant une comparaison avec l'Italie. Cette semaine, je voudrais proposer aussi un coda en reprenant ce que je viens de vous présenter pour offrir quelques considérations finales sur la relation entre production en masse et style national. De nouveau dans une perspective comparative. Maxine Berg, une historienne de la culture anglaise, a proposé l'argument suivant, lequel la production d'objets de luxe en Grande-Bretagne au XVIIIe siècle aurait élargi le marché de la consommation pour les biens manufacturés et préparé le terrain pour la production industrielle. Kenneth Pomerantz, pour sa part, s'est dit sceptique sur l'application d'un tel argument dans le cas de la Chine à la fin de l'Empire, en affirmant que l'enchaînement de l'un à l'autre n'est pas inévitable. Je suis certainement d'accord avec l'idée que le dernier stade, celui de l'industrialisation, ne peut certainement pas être automatiquement déduit du premier. Mais ce premier stade, c'est-à-dire la production d'objets de luxe pour un marché de la consommation en pleine expansion, s'observe sans aucun doute pendant les dernières années des Ming et à tous les niveaux de prix. Les ateliers de peinture de Suzhou n'étaient peut-être pas sur la voie de la production industrielle, mais ils produisaient une grande quantité d'articles correspondant à toute une gamme de prix pour répondre à la demande. Et cela produisait au minimum des effets culturels. En adaptant leur production à l'économie du goût à laquelle souscrivait Liuhua, les ateliers de Suzhou jouaient un rôle important pour consolider ce goût. Les ouvrages et les objets d'art que Li chercha à acquérir sont exactement les mêmes que ce que les conservateurs du musée d'aujourd'hui aspirent à faire entrer dans leur collection. Ces jugements correspondent presque parfaitement à ce que le XXe siècle en est arrivé à identifier comme étant le style national chinois pour ce qui est des objets d'art et de la peinture. La formation de ce canon a été initiée sur le terrain intellectuel et esthétique préparé par Liuhua et ses amis à la fin des Ming. Mais ce qu'il a réellement cimenté, ce canon, c'est la demande. Depuis celle des acquéreurs placés au sommet de la pyramide de la consommation, qui ne regardaient pas à dépenser 40 taël pour un rouleau d'un artiste célèbre, jusqu'à celle du petit acheteur de base, capable d'acheter une imitation attribuée au même artiste pour 80 centimes. La majorité des gens ne pouvaient pas s'offrir les œuvres qu'achète Liuhua. Mais ils avaient néanmoins un impact sur ce qui circulait sur le marché. Le marché d'aujourd'hui continue à opérer plus ou moins dans le cadre des mêmes économies du goût et du prix. Le canon approuvé par Liuhua est toujours avec nous et c'est bien pourquoi les chances de mettre la main sur une assiette des Park Yung-lu ou une peinture de Wen Zhongming sont extrêmement faibles. Tout a déjà été pris. Les acheteurs situés dans le haut du marché doivent se contenter d'objets de second choix à l'intérieur du même canon. Des copies d'assiettes Yung-lu fabriquées à l'époque Wan Li, par exemple. Ou même une œuvre de Liuhua lui-même. Et c'est un Liuhua qui était vendu à Sotheby's à Hong Kong en 2002. Et ce n'est pas une grande œuvre, mais si on ne peut pas acheter un Wen Zhongming, on achète un Liuhua. Ce que je suggère est que l'essentiel du marché, et aussi bien du canon d'ailleurs, repose sur les consommateurs ordinaires, les gens comme vous et moi. Nous satisfaisons des reproductions contemporaines qui sont des faux autorisés, en quelque sorte, telles qu'on trouve dans les boutiques des musées ou des copies qu'on peut encore acheter à Shenzhen ou à Hanoï, où l'on me dit qu'on peut se procurer une Vermeer très convenable et pas seulement un Dong Chi Chang très convenable pour un prix raisonnable. Même si ce que la plupart d'entre nous sommes en mesure d'acquérir, ce ne sont jamais que nos petites acquisitions dans les boutiques des musées ou dans les marchés pour touristes font autant que les ventes aux enchères haut de gamme pour maintenir en place le style national chinois et pour garantir le chiffre d'affaires de l'industrie contemporaine de la reproduction d'art. Après avoir enterré son père et dûment observé la période de deuil, Liuhua fut bien obligé de mettre un terme à sa situation de congé permanent et de se mettre au travail administratif. Il semble aussi avoir abandonné son journal. Et même s'il ne l'a pas abandonné, le journal n'a pas survécu. S'il avait continué à le rédiger, il aurait pu nous parler, comme Chen Shide dans ma première conférence, de prix qui grimpaient à des niveaux presque aussi vertigineux que les peintres de Wen Zhongming. Je vais parler de ce qu'il fallait payer pour se nourrir en période de famine la semaine prochaine. Il est vrai que Liémont, en 1635, avant qu'on en arrive au pire en matière de prix et que la dynastie ne s'effondre. Mais cela, c'est ce dont je parlerai à mon conférence finale. Merci.